Donc, la question du racisme a une petite définition assez simple que j'ai trouvée évidemment sur Internet. Idéologie qui postule une hiérarchie entre les races humaines. Sauf que, les scientifiques le disent, il n'y a pas de race humaine, ou plutôt tous les êtres humains viennent d'une même origine, l'Homo sapiens. Il y a eu d'autres humanoïdes, dit-on, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais en tout cas, tous les êtres humains viennent d'une unique origine, une unique race humaine. Donc, il n'y a pas de race. Il y a des races chez les animaux, mais pas chez les êtres humains. Donc, on peut dire que cette idéologie qui postule une hiérarchie des races, déjà, part sur un postulat qui est faux, mais elle se décline sur différentes hiérarchies. Une hiérarchie entre les groupes humains, selon la nationalité, selon la couleur de peau, c'est la plus célèbre compréhension du mot racisme, selon l'ascendance, ou l'origine nationale ou ethnique. Par extension, le mot racisme ne veut pas dire simplement le fait de postuler qu'il y a une hiérarchie, une différence, mais veut dire une hostilité. Vous voyez, on franchit un cap là. C'est pas simplement dire, bon, on est différent, mais dire je ne t'aime pas parce que tu es différent. Une hostilité systématique à l'égard d'une catégorie de personnes. Alors ça, c'est une compréhension encore plus profonde, je veux dire, encore plus mauvaise, mais réelle. Du racisme. En fonction de ton physique, évidemment, on l'a dit, la couleur de peau, mais de ton âge, j'aime pas les jeunes, j'aime pas les vieux, de ta taille, tu es trop gros, trop maigre, de ton handicap, on va exclure parce que tu es porteur de tel handicap. Évidemment, le sexisme, de ton sexe, de ta nationalité, j'aime pas les Anglais, j'aime pas les Français, j'aime pas les Américains, j'aime pas les Arabes, j'aime pas, enfin voilà, bon. De ta croyance, de ta religion, j'aime pas les catholiques, j'aime pas les musulmans, j'aime pas les ceci ou cela. Attitude d'hostilité en fonction de ton origine, tu es israélite, tu es maghrébin, tu es afro-descendant. Bon, tu peux être français mais afro-descendant, mais enfin, un peu, voilà, t'aimer pour l'un ou l'autre, ou ne pas t'aimer pour l'un ou l'autre. En fonction de ton milieu socio-professionnel, social, etc., tu appartiens à telle société, je ne t'aime pas parce que tu fais partie de, point à la ligne, de ta culture. En fonction de ton apparence, de ta mode. Tiens, tu es plutôt punk ou tu es plutôt ceci. Voilà, je ne t'aime pas parce que tu es rasta. Ou, enfin, je vois, tu as tel look qui ne me plaît pas. De ton comportement, on peut parler de l'orientation sexuelle. Bref, toute forme de discrimination. Et un terme plus chrétien que discrimination, il y a un autre terme qui est très important dans l'Évangile, le mot jugement. Donc, tout ce qui est de l'ordre du jugement de l'autre. C'est-à-dire que je vais plaqué sur l'autre, a priori, sans savoir, parce que Dieu seul peut juger, parce que lui, il sonde les reins et les cœurs, il connaît tout. Mais moi, je ne peux pas juger. C'est illégal de ma part de juger. Je peux juger un comportement extérieur, hein, attention, hein. Je peux juger un comportement extérieur, mais pas une personne. Je peux dire que c'est mal de frapper un enfant. Mais je ne peux pas dire enfin, de frapper violemment, etc. Voilà, ou une autre personne d'ailleurs, un enfant ou pas. Mais je ne peux pas dire, je peux pas juger la personne dans le fond de son cœur. Peut-être que la personne est folle, peut-être que la personne est en train d'enlever une abeille qui est en train de sur la tête de l'enfant. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Bon. Imaginons, dit Saint Jacques, que dans votre assemblée, en même temps, arrive un homme qui porte vêtements rutilants, portant une bague en or, et un autre pauvre qui arrive aux vêtements sales. Hein, vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites, assieds-toi, en bonne place, ici. Et quant au pauvre, vous lui dites, toi, reste debout là-bas. Mes frères, dit Jacques, dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Alors pourquoi je mets ce texte à ce moment de la catéchèse? Vous savez que je commence toujours par essayer de comprendre ou d'expliquer le problème. Et donc, à la fin, je donne la lumière du Christ. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jacques note que cette attitude, dans l'assemblée chrétienne, on va juger selon l'apparence de l'autre. Et donc, cette attitude, elle est profondément inscrite dans l'humanité. Profondément inscrite. C'est une attitude issue du péché. Alors, le racisme, tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou les racismes, j'y reviendrai, vient du choc des cultures historiquement, de la rencontre de civilisations, il y a eu des grands voyages, et des peuples différents se sont rencontrés. Cela dit, avant même qu'il y ait des clochers dans les paysages d'Europe ou de France, les peuples n'ont pas attendu entre deux villages pour se détester d'avoir l'esprit de clocher, ou pour mépriser celui qui est ailleurs, qui n'est même pas différent, qui a la même culture, tout, mais qui est ailleurs. Bon. Selon différents critères, etc. Bon. On a commencé par se comparer en fonction d'une domination, en recherchant une domination, pardon, technique, une domination militaire, une domination économique, une domination culturelle. Hein, les filles de tel village sont plus jolies que les filles de l'autre. Avant, tu ne vas pas épouser une fille de ce village-là, c'est pas possible, ce sont des mal élevés. Enfin, vous voyez, bon. Et quand on regarde des films de science-fiction avec les aliens, hein, y a toujours des aliens. Donc, aliens, ça veut dire étrangers aussi. Hein, comment on appelle ça, des extraterrestres. Eh bien, c'est toujours, il y a un choc de culture. Et on commence à mépriser ou à admirer. Enfin, il y a toujours, il y a souvent un combat, sauf dans E.T., où plutôt, c'est plutôt sympathique. Quoique les hommes sont assez méchants avec E.T., puisqu'on essaie de le disséquer pour savoir ce qu'il y a là à l'intérieur. Ce qu'il a à l'intérieur. Bon. Des phénomènes actuels, enfin actuels, des phénomènes historiques vont augmenter cette rencontre des cultures. Je ne juge pas pour l'instant pour savoir si c'est une bonne chose. La colonisation, historiquement. La colonisation a été cette rencontre de cultures qui a à la fois favorisé, c'est très beau la rencontre des cultures, qui a enrichi une culture mondiale, on va dire, je prononce déjà le mot, catholique. Vous voyez, quand vous faites une messe des peuples, en France, on vous invite des Tamouls, des Béninois, des Chinois, des Vietnamiens, des Américains, des Français, des Antillais, etc. Tout le monde arrive, tout le monde anime une partie de la messe, et on mélange les nems, les acras de morue, etc. Là, c'est beau. Ouais, bon. Donc, d'un côté, la colonisation, mais aujourd'hui, on ne parle plus de colonisation, mais au contraire, de mondialisation, d'immigration, et là aussi, un choc de culture dans l'autre sens ou ailleurs. Ou partout dans le monde, je ne sais pas comment le dire. Bon. En plus, les moyens techniques, comme les médias, qui permettent une rencontre assez rapide, il suffit d'un clic pour se retrouver en Arabie, en Afrique ou ailleurs. Bon. Alors, cette rencontre doit favoriser une culture métisse, une rencontre des différentes communautés, l'ouverture à l'autre, mais elle favorise aussi cette comparaison et voir ce que j'appelais cette hostilité entre celui qui est différent et que je considère comme un agresseur par rapport à mes propres convictions, à ce que je suis. Bon. Alors, dans l'histoire, il y a eu des théories racistes tout à fait rationnelles, enfin, qui se voulaient rationnelles, notamment des discours et des recherches pseudo-scientifiques, 19e siècle, 20e siècle. On a recherché la taille du crâne, l'épaisseur des os, des lèvres, la forme du nez, du visage, la forme du cerveau, très officiellement dans des laboratoires pour prouver qu'il y avait une différence entre les êtres humains. En matière religieuse, un pasteur anglican, je crois du nom de Newton, a inventé le mythe de Cham, hein, qui n'est pas du tout catholique, je le dis au passage, s'il l'aurait été, je l'aurais dit. Mais enfin bon, disant que Cham, le troisième fils de Noé, qui avait vu son père nu, du coup, a été maudit, donc c'est lui qui est le père de tous les Noirs, et donc c'est pour ça que les Noirs étaient maudits, etc. C'est quelque chose qui a été inventé aux États-Unis par un pasteur pour pouvoir justifier l'esclavage. C'est normal que la race noire était inférieure. Bon. En philosophie, figurez-vous que Aristote, le grand Aristote, dit la chose suivante, mais enfin je vais un peu nuancer. Il résulte, dit-il, que parmi les hommes, les uns sont libres par nature, et les autres sont esclaves par nature. Et pour ceci, l'esclavage est utile et juste. Sauf que nous, lorsqu'on entend ça, et c'est là qu'on est, vous voyez, ce racisme qu'on a dans la tête, on se dit, ben forcément, il parle des Blancs, entre guillemets, qui sont faits pour être libres par nature, et des Noirs qui sont faits pour être esclaves par nature. C'est pas vrai du tout pour Aristote, c'est pas du tout l'esclavage à l'époque, c'était pas du tout une question raciale. Et vous voyez, nous, en entendant ça, tout de suite, on se dit, c'est du racisme. De fait, il le dit pour des raisons plutôt psychologiques, et évidemment c'est faux ce qu'il dit, hein, par nature vous n'êtes pas esclave. Tout homme est fait pour être libre, ce que dira la déclaration des droits de l'homme qui naît aussi dans un contexte chrétien, on y reviendra. Mais il ne parle pas de race, là, Paulus. Par contre, Jules Ferry, le père de l'école pour tous, hein, qui, il y a tant de rues Jules Ferry en France, etc., dit « Messieurs, dit-il à l'Assemblée nationale le 28 juillet 1885, il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Et je répète qu'il y a pour elles un droit parce qu'il y a un devoir, le devoir de civiliser les races inférieures. » Alors, il le dit dans un bon esprit, il dit « Voilà, nous devons apporter la culture, la vaccination, la médecine, nos progrès techniques aux races, je le cite, hein, inférieures. » Donc là, pour le coup, on est vraiment dans un contexte de la colonisation pure. Un autre de ses camarades, dont j'oublie le nom à l'instant, qui était proche de lui, disait « Mais c'est évident qu'il y a une hiérarchisation des races, que les Blancs sont supérieurs aux Jaunes et que les Jaunes sont supérieurs aux Noirs, enfin, etc. » C'est évident, enfin, il le dit à l'Assemblée nationale française. On est en 1885. Vous voyez ? On est en 1885. Donc, il y a aussi une théorie politique qui justifie la colonisation, on va aller apporter à ces hommes, Jules Ferry n'est pas un chrétien, hein, il est aussi franc-maçon, mais il va apporter ça, voilà, il va faire du bien à la France, il va apporter la culture, l'éducation pour tous les hommes, etc. Mais en même temps, pour lui, il considère que les races sont inférieures. Et c'est évident dans son époque. Donc vous voyez que là, il y a quelque chose de profondément inscrit dans l'histoire de l'humanité. Et tout le monde n'a pas eu sur le racisme un jugement négatif au départ. C'était au contraire pour lui très positif. Alors, le phénomène actuel du racisme. Bon, il y a d'abord ce racisme que j'ai appelé atavique. C'est un atavisme. C'est quelque chose qui est profond, qui est inscrit dans peut-être tout homme. L'autre fait peur. La différence fait peur. Vous savez, on a des petits chats en ce moment au couvent, avec les sœurs. Mais le chat, il y en a un, comme il ne me connaissait pas, dès qu'il me voyait, il partait. Puis maintenant, il a fallu l'amadouer. Maintenant, il monte tout le temps sur moi, etc. Bon. Ben, au début, il a peur. Je suis un gros machin qui arrive. Il a peur. Bon, les sœurs sont plus petites, donc il a moins peur. Ça doit être ça. La différence fait peur. Un animal qui voit quelque chose de nouveau, il y a plein de vidéos sur YouTube, vous pouvez le voir, l'animal voit quelque chose de nouveau, il regarde, il est terrorisé, et puis après il voit que c'est son maître qui s'est déguisé, enfin, etc. Bon. Donc c'est un petit peu normal, la xénophobie, je dis normal, je n'ai pas dit que c'est bien pour un être humain. Je dis c'est la première réaction, c'est un atavisme, c'est la première chose. L'autre est différent, comment je dois me comporter, est-ce que je suis mieux, est-ce qu'il ne va pas me dominer, m'écraser, enfin, vous voyez, il y a cette peur. Bon. C'est la xénophobie qu'on retrouve dans Rabbi Jacob. Hein. Regardez, ils sont tous des étrangers, etc. Regardez, la mariée, elle est noire. Bon, vous vous rappelez dans Rabbi Jacob, quand il dit Saint-Antoine, Saint-Antoine, je veux un nouveau chauffeur catholique, catholique comme tout le monde, et catholique comme le bon Dieu, et blanc. Voilà, bon. Donc c'est un film humoristique qui dénonce le racisme. Rabbi Jacob, c'est très, très important, très beau film d'ailleurs, plein d'humour et de finesse. Mais qui montre comment, naturellement, quand on lui dit « Vous êtes raciste », il dit « Moi, raciste ?»« Mais n'importe quoi, je ne suis pas raciste », etc. Bon. Dans Astérix aussi, à un moment donné, il y a un étranger qui vient s'installer dans le village et il y a le âgé canonique qui dit « Moi, les étrangers, je n'ai rien contre eux, mais ces étrangers-là, ils ne sont pas de chez nous. » Bon, je ne les aime pas parce qu'ils ne sont pas de chez nous. Bon, un étranger, voilà. Bon. Il y a aussi cet autoracisme, oula, il faut que je me dépêche un peu, celui où je me déconsidère moi-même parce que j'ai intégré le regard dénigrant de l'autre, réel ou pas. C'est un peu, alors, j'espère que je n'ai pas trop mal lu François Fanon, mais peau noire et masque blanc. Je veux absolument ressembler à l'autre parce que je me déconsidère moi-même et j'ai intégré un regard qui n'est pas forcément celui de l'autre. En tout cas, pour moi, je dois ressembler à l'autre. Voilà. Bon. Y a aussi le gentil racisme. Alors ça, c'est le pire. Lorsque quelqu'un m'aime, j'avais eu un ami comme ça quand j'étais jeune, il m'aimait bien parce que j'étais noir. Enfin, il m'aimait bien pour ça. Ouais, mais parce qu'il considérait que je suis téléporteur. J'ai une amie africaine qui m'avait dit ça une fois en France. Il dit, je suis pas noir, hein. Je suis handicapé cutané. C'est très différent. Je suis handicapé cutané. C'est-à-dire que voilà, on m'aime ou on ne m'aime pas, enfin, etc. Mais même quand on m'aime, c'est parce que ah oui, la pauvre elle est noire. Ah ben non, ça c'est aussi une forme de racisme. J'avais gentil racisme. Bon. Il y a aussi le racisme qui est une création politique. Alors ça, c'est plus délicat. On a parlé autrefois de du wokisme ou de la cancel culture, surtout du wokisme. Un racisme qui est le contraire de l'antiracisme. C'est-à-dire, c'est une vue de l'esprit, une création politique. On va inventer un racisme systémique. On va racialiser tout le monde. On va minoriser tout le monde. On va nommer un nouveau chef tel endroit s'il est d'origine, comment on dit ça, voilà, issu de l'immigration, on va dire, ah oui, il est ceci, il est noir, etc. Non, pourquoi désigner la personne par son origine? Moi, je suis fier de la mienne, tout le monde est fier de la sienne, et tant mieux. Mais est-ce que c'est la première chose qu'on voit chez un être humain? Et donc, ce racisme, je dirais, qui est inventé de façon politique, qui va victimiser tout le monde ou enfermer chaque minorité dans sa particularité. Alors, comme je suis noir, je ne peux pas penser ça. Comme je suis blanc, je ne peux pas penser ça. Comme je suis, etc. Et au bout d'un moment, on va ségréguer, on va créer une ségrégation, un apartheid, sous prétexte d'unifier, de lutter contre le racisme. C'est compliqué ce que je viens de dire, mais vous posez des questions. Il y a aussi le racisme qui est une revanche, une réaction. C'est-à-dire que par exemple, le noirisme, ce qu'on appelle le noirisme. Qui est pas le fait, ce qui est le fait de dire, comme toi, tu es supposé d'être raciste, mais ça peut être aussi chez d'autres, hein, chez d'autres, je vais donner l'exemple du noirisme que j'ai un petit peu étudié, mais très peu, mais quand même, comme toi, tu es supposé être raciste, moi, je vais être raciste contre toi et affirmer ma différence, ma supériorité, etc. Dire, regardez ce que les gens de mon peuple, de ma race ont fait, mieux que les autres sont inférieurs à nous, etc. Parce que je pense que l'autre pense la même chose que moi. Ce qui n'est pas vrai forcément, d'ailleurs, a priori. Ce racisme-là est dans la tête. Hein. Dans la tête de celui qui se considère comme racisé, premièrement. Racialisé par l'autre. Que l'autre ne voit en moi que d'abord que celui qui est de couleur, ou qui est ceci, ou qui est chinois, ou qui est blanc. Hein. Ça peut être le cas d'un blanc ici aux Antilles ou en Afrique, etc. Donc je considère que l'autre ne voit en moi que ça, et donc je vais agir en fonction de ça. Ça veut dire que moi aussi, si je le pense, c'est que du coup, je suis moi-même, j'ai une vision racialisée ou racisée du monde en face de moi. En réalité, la Bible répond à cela. C'est même l'un des thèmes principaux de l'Évangile et de l'histoire de l'Église et de l'histoire de la Bible. Hein. Race, peuple et langue dans la Bible, les nations. Le Très-Haut dota les nations. Il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples. Alors, c'est vrai que cette séparation-là vient de Babel. Donc, c'est une conséquence du péché. Mais en même temps, elle est une volonté divine. C'est-à-dire que lorsque le peuple de Dieu a été hors de son peuple, a été immigré, Dieu l'a ramené à sa terre. Dieu l'a ramené chez lui. Et Dieu a protégé sa culture, sa langue, sa religion, comme il l'a fait pour tous les autres peuples. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de normal pour un peuple, pour une personne, pour être exact, d'appartenir à un peuple, à une culture, à une nationalité, etc. C'est normal. Et de le revendiquer. Et la nouvelle culture, qui est aussi finalement une forme de. C'est un antiracisme, mais c'est une forme de négation aussi de la dignité de l'être humain, qui voudrait que tout le monde soit pareil et mélangé. Et que moi, je renie mon antillanité pour la mélanger avec la chinoisité. Non, moi, j'avais un de mes amis qui était cévenol, protestant, bon, il était protestant d'origine, mais il était athée. Il avait des opinions politiques à l'opposé des miennes, mais c'était mon meilleur ami. Et on s'engueulait tout le temps. Et il était buveur aussi. Moi, je ne bois pas une goutte d'alcool. C'était l'un de mes meilleurs amis. Jusqu'à aujourd'hui, je garde dans mon cœur cette amitié. La vie nous a séparés, mais quand même, c'est dans notre différence que nous nous aimions. La Bible ne prône pas un mélange insipide, une sorte de. Vous voyez, quand vous prenez toutes les couleurs de l'aquarelle, vous mettez, ça fait une sorte de cacadois qui n'a pas de couleur. Ce qui est beau, c'est lorsque toutes les couleurs se déploient, toutes les façons de penser. Et la Bible a toujours voulu cela. cette richesse profonde de l'humanité. Donc, qui n'est pas une opposition, mais cet antiracisme qui consiste à dire, bon, pour qu'il n'y ait pas de racisme, on va tout mélanger, etc. Non, ça c'est pas... qui est des métissages qui sont des enrichissements, oui. Je ne sais pas, dernièrement, on m'a servi une tartiflette à la banane. La tartiflette, c'est de la pomme de terre, normalement. Ah, mais le gars a mis de la... Non, de tinin. Une tartiflette de tinin. Ah, le machin était bon. Ça, c'est du métissage. Mais par contre, s'il s'agit de renier finalement ce qu'on est, sous prétexte qu'il ne faut pas qu'il y ait d'opposition, qui est une petite confrontation, le mot est mal choisi, mais confrontation dans le sens où on se rencontre front à front pour se regarder, pour grandir ensemble, oui. Et l'écriture et le message chrétien a toujours été au centre de cette question a toujours été au centre du message chrétien. Le Christ Jésus, qui était Dieu, qui avait la condition de Dieu, n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur, se faisant semblable aux hommes, reconnu homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, dit l'Épître aux Philippiens. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'incarnation, Jésus s'est incarné. Il est Dieu, il est venu chez les hommes. Mais il est venu dans un peuple, dans une culture, dans un village de 12 maisons, Nazareth. Il est le fils du charpentier, on le connaît. Voyez, il n'est pas venu comme un être universel. Ou plutôt, il est un être universel, il est un homme... comme tous les autres hommes, précisément parce qu'il a une race, parce qu'il a une culture, parce qu'il a une nationalité, parce qu'il a une ascendance, un père, une mère, etc. Ce qui fait de moi un être humain, c'est ça. C'est pas lorsque j'aurai renié ce que je suis pour créer une sorte de culture. D'ailleurs, d'où viendrait-elle, cette fameuse culture universelle, totalement métissée, etc. Sinon, d'une manipulation de ceux qui veulent nous emmener là où on ne voudrait pas aller. C'est beaucoup plus difficile d'accepter l'autre en tant qu'autre. Il faut vaincre cette peur animale, ce racisme atavique. Il faut vaincre cette peur pour aller vers l'autre et que l'autre reste l'autre et moi aussi. Là, on est dans le respect. Là, on est dans ce que Dieu a voulu. Et l'Église catholique, dans sa culture aujourd'hui, est peut-être la seule, peut-être, il y en a d'autres, réalité, où on vit, ben, aller à Rome, vous verrez le côté international universel, hein, universel, catholique, ça veut dire universel, hein, où le Notre Père, comme dit un de mes frères, le tête-à-tête avec Dieu est lié au coude à coude avec ses frères. Mais mes frères sont dans leur différence. Ou encore le Christ, allez de toutes les nations. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Mais chaque disciple reste dans sa nation et devient frère de tous les autres, quelle que soit sa nation. Vous voyez, c'est le centre même. L'Église est la réponse à cette question du racisme. La première préoccupation du synode de Jérusalem, acte 15. Quelle est la première question pour laquelle les apôtres vont devoir trancher? Ils vont s'énerver, se disputer les uns avec les autres. Pourquoi? Est-ce qu'on accueille les païens ou est-ce qu'on leur demande de devenir juifs par la religion? Et ils vont trancher en disant, oui, chacun garde sa culture. Par contre, vous êtes liés au Christ et donc l'Évangile en premier dans votre vie. Et c'est l'Évangile qui va créer l'unité profonde. D'ailleurs, c'est notre cas aux Antilles. Je pense qu'on a de toutes sortes d'origines asiatiques, africaines, bien sûr, européennes, mais ce qui fait notre unité, et malgré les différences qu'il y a encore et qu'il y a eu par la colonisation et la société coloniale, ce qui a fait l'unité de ce peuple. Et là, le peuple risque de perdre cette unité et perdre sa paix. Ce qui a fait l'unité, c'est l'Évangile et c'est l'Église catholique. Non pas chacun dans sa chapelle, mais l'Église catholique. Enfin, voilà ce que dit saint Paul. Dans le Christ, il n'y a plus le païen ou le juif, le circoncis ou l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave ou l'homme libre. Mais il n'y a que le Christ qui est tout en tous. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
S'il ne restait qu'une goutte du sang des hommes,
elle serait tout comme ce que nous sommes, mélangée des tout premiers jours,
du tout premier amour. S'il ne restait qu'une histoire à conter,
je parlerais de ceux qui ont trouvé ce qui fait nos différences, une raison d'aimer.
Combien de sources de même sang, combien de vagues nées du même océan.
S'il ne restait qu'une lame de vie,
elle serait de toutes nos couleurs,
comme cet amour qui nous unit
et qui nous rend meilleurs.
Il y a tant d'espoir lancé vers le ciel.
Devenu pour les questions de la catéchèse de l'évêque. On continue cette fois-ci avec les questions du public. Allez, à vous. Sur le thème, le mystère des racismes. Voilà.
Oui, merci Monseigneur pour ce bel enseignement. Alors moi, je retiens que le racisme est en tout homme. Vous avez évoqué cette hiérarchisation, mais surtout cette hostilité à l'égard de l'autre qui est différent. Alors ma question, c'est celle-ci. Mon frère qui est orthodoxe, protestant, évangélique, j'entends dans mes églises martiniquaises certains de vos confrères qui ont un discours qui pourrait créer une hostilité entre nous. Alors, voilà.
Comment aborder la
regard,
question?
Quel regard Quelle est votre réponse par rapport à ça?
Alors, ce que j'ai dit,
si c'est dans notre différence que nous devons nous aimer.
À ceci près, quand même, c'est juste. Mais on va devoir résoudre la quadrature du cercle. Parce que l'ostracisme, hein, le fait de rejeter celui qui est différent, qui est autre. Bon. Il est inscrit, peut-être pas dans nos gènes, mais dans une certaine forme, pour l'humanité en particulier, dans une certaine forme de retour à la bestialité, si j'ose dire. Il est un mouvement d'abord naturel. Dire l'autre est différent, il m'agresse. Il m'agresse parce que différent. Parce que pas comme moi. Il vient me bousculer dans ma zone de confort, il vient me bousculer dans mes convictions, et donc il me remet en cause parfois très très fondamentale, parfois pour des choses secondaires, etc. Maintenant, la question que tu poses est une question de l'œcuménisme, et le mot est techniquement employé ici. C'est pas simplement l'autre quand je dis œcuménisme, c'est l'autre qui est, l'œcuménisme, c'est les affaires de la maison. Donc c'est celui qui habite la même maison que moi, en l'occurrence la maison du Christ. Et là donc on parle de vie fraternelle. Sauf que la vie fraternelle dans la Bible, ça commence par Caïn et Abel. Alors c'est peut-être le psaume qui dit qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble. Mais la vie fraternelle, ça commence par « ôte-toi que je m'y mette ». Et c'est même vrai au sens d'une famille, d'un enfant qui est tout heureux peut-être d'accueillir un petit frère, une petite sœur, mais qui en même temps peut être bousculé par l'arrivée du petit, on le sait, on l'accompagne aujourd'hui. Il y a un autre élément qu'il faut tenir compte, c'est que là, en matière de religion, c'est ce qu'on a reproché à la religion d'apporter beaucoup de violence parfois, en matière de religion, les convictions sont fortes et puissantes dans un être. Et surtout en matière, alors l'orthodoxe c'est un peu différent. En matière, mais pour les protestants c'est différent. C'est ce qu'on appelle l'hérésie, c'est-à-dire que nous ne croyons pas à la même chose. Nous croyons que le Christ, nous croyons tout ce que croit le frère, j'y crois, mais parfois il ne croit pas ce que moi je crois. C'est-à-dire qu'il vient s'opposer à ma foi. Et donc le terme est, de l'œcuménisme, c'est pas simplement une idée, c'est une pratique, une praxis, c'est-à-dire ça se met en œuvre. C'est un acte théologique, un acte de foi, un acte par lequel je me mets à l'écoute de l'autre pour comprendre sa foi. Mais pas, en aucun cas, il ne s'agit de renier la mienne. Voilà, ça c'est très fort. Et nous chrétiens, nous croyons, nous catholiques, à ce qu'on appelle l'œcuménisme en avant. L'œcuménisme en arrière serait de dire, ben, de toute façon, au départ, il n'y avait que l'Église catholique, donc les orthodoxes et les protestants, donc à revenir à, voilà, dire qu'ils se sont trompés et revenir à l'Église. Non. L'œcuménisme en avant est beaucoup plus beau. De dire que si lui, il est inspiré par l'Esprit Saint et que moi aussi, eh bien, du coup, nous arriverons ensemble, l'Esprit Saint nous conduira vers l'unité à un moment donné. Hein? Et de fait, en 99, c'est passé sous silence, mais les catholiques et les luthériens ont quand même signé un texte commun sur la justification, qui était la raison profonde de la réforme. Bon, c'est un peu trop compliqué malheureusement, et beaucoup de fidèles n'ont pas compris, quand même des pasteurs, etc. Et puis arrive aussi le péché. Il y a du péché dans l'Église catholique. 100% des hommes sont des membres de l'Église sont des pécheurs, mais il y a aussi du péché dans l'Église protestante, où 100% des hommes sont des pécheurs. Et donc là, j'arrive à un autre point de ta question, c'est que évidemment, il y a des critiques. Il y a des critiques à tous les niveaux, dans les familles, en disant oui, vous les catholiques, vous, etc. Et donc du coup, la tentation est de répondre à la critique par de la critique. Et ça, le démon se frotte les mains. Alors il s'agit donc, je reviens sur cet acte œcuménique qui consiste à dire non, je crois que tu as tort, hein. Dans tel point, tel point, tel point, tu n'as pas raison, parce que voilà ce que le Seigneur nous a donné pour telle raison. Ça, je le fais tout le temps. Mais par contre, je crois que l'Esprit Saint te guide en vérité. Quelque chose que j'aime beaucoup chez nos frères protestants, c'est que le Seigneur leur a donné, je ne sais pas pourquoi, les mots et la musique pour composer des chants d'adoration. Mais ils n'ont pas le Saint-Sacrement. En général, c'est pas possible. Nous, on a le Saint-Sacrement, mais eux, ils ont les chants d'adoration. Si ce n'est pas un signe, en tout cas, pendant ces années où nous sommes. C'est assez beau de voir, dès qu'on arrive devant Saint-Sacrement, les catholiques, pour adorer le Saint-Sacrement, on a des chants protestants sur les lèvres. Donc ça, il faut reconnaître, c'est ce qu'on est en train de faire, les signes des temps. Et je rappelle que l'unité des chrétiens est un signe de l'eschatologie, du retour du Christ. Hein. Donc il faut, on le chante à la messe, nous attendons ton retour, donne-nous l'appel, l'unité des chrétiens, on le chante, on le prie à chaque messe, etc. Parce que c'est l'un des signes de la venue du Christ, hein, de la fin des temps.
Monseigneur, j'ai retenu que vous disiez que la différence était une richesse et que c'était important qu'elle puisse exister. Mais est-ce que, de la même manière, on pourrait dire que l'absence de différence peut amener à ce refus de l'altérité, et qui peut aller très très loin, c'est-à-dire faire un lien avec ce que nous avons évoqué dans la première catéchèse du wokisme, sur justement l'enfermement dans des groupes identitaires, justement parce qu'il n'y a plus d'altérité, de peur que justement de cette relation à la différence.
Il y a un mot pour ça qui s'appelle le totalitarisme. Hein. C'est-à-dire le refus, l'exemple suprême, c'est le nazisme. Ça, le XXe siècle a vu advenir, peut-être, j'espère que jamais plus l'histoire de l'humanité ne connaîtra ça, j'espère de tout mon cœur, mais où il faut que tout le monde se ressemble. Vous savez, toutes les expériences génétiques de reproduction opérées par les nazis, par exemple, on fait se reproduire entre eux des gens sans père et sans mère pour que ce soit de bons soldats ou de bons agents qui pensent tous la même chose au même moment, etc. On a là une négation profonde de l'humanité. En même temps, l'indifférence peut être est une source de division, de racisme. On l'a dit, c'est le départ du racisme. Donc, mais l'antiracisme n'est pas, c'est ça la théorie que je développe, l'antiracisme n'est pas la négation de la différence, l'antiracisme n'est pas le mélange de tout le monde dans un grand tout, où tout le monde est sur la terre de tout le monde, et tout le monde a la culture de tout le monde, où tout le monde pense la même chose que tout le monde, ou plutôt tout le monde relativise sa propre pensée en disant « oui, moi je pense ça, mais c'est peut-être pas vrai parce que l'autre pense autre chose ». Ça, c'est pas ça. On essaie de nous vendre ça parce que c'est un chemin que l'homme essaie de prendre tout seul. Mais ce que Dieu a voulu et qui est beaucoup plus beau, c'est ce respect, ce chemin. On parlait de l'œcuménisme tout à l'heure, mais c'est valable finalement pour toutes les cultures. En disant, les Anglais roulent à droite et à gauche et nous à droite. Bon, c'est pas la même chose. Et en même temps, c'est le même respect du code, c'est le même respect pour la sécurité, etc. Donc, c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut. Mais c'est vrai pour d'autres principes, d'autres façons de faire. Nous avançons tous. Le danger a été lorsque des civilisations ont voulu imposer une seule culture, une seule façon de faire, une seule façon de penser à d'autres. On l'a entendu avec Jules Ferry ou autre. Bon. Maintenant, vous allez me dire, mais vous les chrétiens, nous les chrétiens, nous essayons d'imposer l'évangile à chacun. Mais justement, l'évangile, quand on regarde bien l'Église catholique, au sens du mot catholique profond, elle s'est... Alors, nous, aux Antilles, on croit que l'Église catholique est venue avec la culture européenne. Mais c'est pas vrai, elle est née dans la culture orientale. Donc, évidemment, comme elle est venue avec la colonisation, on pense que nos saints sont de couleur blanche, etc. Mais c'est pas vrai. L'Église, l'Évangile s'est toujours adapté à toutes les cultures. Aussi bien les microcultures dans un pays comme la France entre les Marseillais et les Lillois, mais aussi entre les Africains, entre les Japonais, les Chinois, les Américains, nous les Antillais. L'Évangile, justement, n'a jamais renié aucune doctrine, aucun être vivant, aucune culture, et a toujours intégré dans cette culture ce qu'il y avait d'universel, et qui venait augmenter la richesse du monde entier. Il y a un prêtre qui m'a posé cette question une fois, il m'a dit, mais vous les Antillais, qu'est-ce que... Chaque peuple, c'est une théorie de Jean-Paul II quand il est passé, et il y a eu un livre qui a été écrit là-dessus, chaque peuple apporte quelque chose de spécifique à toute l'humanité. Dans sa spécificité qui est la sienne, chaque peuple apporte une spécificité. Et il m'a posé la question, et vous les Antillais, vous les Martiniquais, quel est ce que Dieu vous a donné à vous seul et qui enrichit toute l'humanité? Je n'ai pas encore réussi à répondre, j'ai plein d'idées. Mais je vous le laisse pour tous ceux qui nous écouteront, chacun chez lui, chacun dans sa culture et dans son peuple. Qu'est-ce que mon peuple... Et donc, vous voyez, il ne s'agit pas de dire, moi, je vais oublier ce que je suis pour pouvoir me mélanger avec les autres. Au contraire, en affirmant ce que je suis, ce que j'ai reçu, etc., eh bien, je vais enrichir toute l'humanité. Ça, c'est absolument splendide. C'est la tartiflette au thym, à la banane. Ah oui, vraiment, ça c'est...
Oui. Monseigneur, on constate quand même qu'on est, voilà, vous avez dit, on est tous pénétrés par le racisme et que de plus en plus les gens ont du mal à se rencontrer. Il existe des groupes qui ont de plus en plus de mal à se rencontrer et ça s'arrange pas avec les réseaux sociaux. Et voilà, parfois il y a des tentatives de rencontres, de discussions sur ces sujets. On a pu faire des tables rondes sur l'histoire de l'esclavage ou des choses comme ça. Mais où finalement, on essaie plutôt d'avoir la parole la plus juste et la plus noble. Et peut-être qu'on oublie un peu de se dire personnellement. Et voilà, quel cadre l'Église peut proposer pour permettre à tout un chacun de dire comment lui, personnellement, est traversé par le racisme et comment lui aussi peut écouter dans un cadre bienveillant l'autre qui est aussi traversé par le racisme.
Quand tu dis traversé, je dirais plutôt menacé que traversé. Parce que grâce à Dieu, et c'est le cas de le dire, par la grâce de Dieu, nous ne sommes peut-être pas, dans une culture catholique, pénétrés par le racisme. Ils n'arrivent pas à imbiber. Nous sommes, par contre, sommes toujours menacés, toujours une menace extérieure, je pense. Et il y a beaucoup plus, il n'y a pas que les catholiques. Hein. J'ai rencontré d'autres personnes à travers le monde, des personnes qui n'étaient peut-être pas croyants et qui n'étaient absolument pas pénétrées par cela. Mais on est toujours menacé. Il faut toujours faire attention à ne pas sombrer avec les meilleures intentions du monde. Je suis persuadé que Jules Ferry avait les meilleures intentions du monde quand il disait ça. Il voulait apporter ce qu'il y avait de meilleur chez lui aux autres. Et de fait, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. D'apporter, de partager avec l'autre. Si toi, tu sais soigner je sais pas, la grippe et que moi j'ai une grippe et que je sais pas, bah, tu viens m'apporter ton médoc. Et c'est normal, ta science, ta connaissance. Bon. Mais derrière, il y avait une certaine supériorité, une certaine condescendance, etc. Ah, ça, par contre, donc on doit toujours, toujours faire attention. Maintenant, tu demandes, est-ce que... Comment l'Église pose le cadre? Mais c'est pas, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans la catéchèse. C'est par sa vie elle-même, par sa pratique, sa praxis. Quelqu'un disait que, par exemple, la paroisse. Qu'est-ce qu'une paroisse catholique? Une paroisse, l'esprit de clocher. Ça, c'est inventé pour les catholiques, pas les catholiques. Enfin, il n'y a pas que nous. Mais tout le monde a l'esprit de clocher. Bon. C'est très négatif. Mais aujourd'hui, une paroisse, en réalité, c'est des personnes qui parfois ne se connaissent pas, ne se fréquenteraient pas, ne seraient pas ensemble. Elles prendraient peut-être le bus ensemble, elles pourraient aller à la pâtisserie, au supermarché ensemble. Mais là, elles sont assises, elles doivent vivre quelque chose ensemble. C'est peut-être le dernier endroit, disait un de mes amis, on peut fréquenter des connards. C'est pas mal, ça. Enfin non, c'est une autrice qui dit ça, c'est Natalia Tuillier, dans un livre, pour les premiers chrétiens ou les derniers chrétiens. Elle dit, c'est le seul endroit où l'église, où on peut fréquenter, être copain avec des connards. C'est-à-dire que, parce que dans le reste de la société, on fréquente pas les connards, les gens qui ne sont pas, qui ne pensent pas comme nous. Et donc, je peux être assis avec quelqu'un, à côté de quelqu'un qui vote à l'opposé de l'échiquier politique, etc. Même si on essaye, surtout en France, de mettre les chrétiens dans certains bords et de les parquer. Mais c'est l'inverse du catholicisme. C'est ça que le catholicisme ne supporte pas d'être parqué. D'être parqué dans un clan politique, d'être parqué dans un clan culturel ou social. Et ça, c'est très dangereux pour le catholicisme. Et le diable a très bien compris. Du coup, en France, on peut dire qu'un petit peu, on essaie de parquer les cathos. Donc certaines franges politiques s'opposent aux cathos parce que cathos, pour qu'ils deviennent un peu comme Astérix et Obélix dans le village retranché, avec des camps romains autour, quoi. Et qu'on crée une sorte de parti politique des cathos. Or, c'est à l'inverse de ce qu'est l'Église. Qui, elle, au contraire, alors, on va dire qu'elle perd de la force, parce que si elle se concentrait, elle pourrait faire passer ses idées, faire du lobbying, etc. Mais l'Église, elle s'honore. Moi, j'aimerais que tous les catholiques pensent comme moi, mais non, au contraire. Je suis fier lorsque, et c'est vrai, figurez-vous, dans tous les milieux catholiques que j'ai rencontrés. Là, je le dis, je crois, dans le livre que j'ai écrit dernièrement avec le Père Venat, dans tous les milieux catholiques que j'ai rencontrés, d'extrême droite, d'extrême ceci. Ils sont fiers d'avoir rencontré des catholiques qui pensaient l'inverse, qui étaient différents, etc. Mais fiers, ils reviennent comme si c'était, ils avaient fait une expérience du Christ. Ah ouais, on a rencontré des gens qui étaient de tel pays, de tel... Ah ouais, super, quand vous allez au JMJ, tu dis, tu es quel pays? Et tu dis, je suis de la France, la Martinique. Tu dis, waouh, ouais, super! Ben non, c'est, oui, c'est normal d'être d'un pays de la France ou de la Martinique, ça veut dire... Mais non, mais on est heureux d'avoir rencontré quelqu'un de différent. Heureux d'avoir rencontré quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Heureux, ben ça c'est l'évangile en nous. C'est la grâce profonde de l'évangile. Donc, il y avait une question tout à l'heure sur l'œcuménisme. Enfin, quel catholique ne serait pas hyper heureux, enfin, comme une expérience d'Esprit Saint, de passer une demi-heure, par exemple, à parler avec un frère d'une autre religion, d'une autre confession chrétienne, et qu'on parle ensemble, on discute, mais en frère. Pas pour s'opposer et s'envoyer des versets à la figure. Parce que là, ça ne vient pas de l'évangile et du Christ. Mais si on a parlé en frère, on a même si on n'était pas d'accord sur ça, mais on s'est compris, on s'est parlé. Lequel d'entre nous ne le vivrait pas comme une sorte d'expérience extraordinaire de l'Esprit-Saint, 10 fois plus intéressante que d'avoir parlé avec quelqu'un qui pense exactement comme nous? Parce qu'on est heureux à ce moment-là, on vient à dire « Ouais, j'ai une discussion avec un adventiste, ouais, ça a pu, parce qu'en plus c'est un frère, on a vu que c'est quelqu'un qui aime Jésus, qui a envie de vivre l'Évangile, et puis on a partagé, il m'a dit qu'il n'est pas d'accord sur la dévotion mariale, mais moi je lui ai expliqué, il m'a laissé parler, je l'ai laissé parler, on ressort de là, waouh !» On a fait l'expérience de l'Esprit Saint. Et donc ça, l'Église nous l'offre, ça, merci. Merci à l'Église. Par contre, tu l'as dit dans ta question, la société ne le permet plus aujourd'hui, c'est de pire en pire. J'avais fait une expérience une fois avec des jeunes, j'avais été accepté parce que je dirigeais un groupe de gospel, j'avais été accepté dans une assemblée de tous les lycées du sud-ouest de la France, etc., des lycéens avec des artistes, et moi, avec mon groupe de gospel, dans mon lycée, on avait proposé un petit concert de gospel. Donc on avait accepté qu'il y ait un religieux, un habit, Mais là, c'est vrai que je me suis rendu compte que, en fait, les jeunes entre eux n'avaient pas de lien, parce que entre ceux qui étaient plutôt rock heavy metal, ceux qui étaient plutôt reggae, etc., il n'y avait pas de communication du tout entre eux. Alors que nous on dit, mais c'est la culture jeune. Bon, ça, je date un peu, hein, ça a plus de 20 ans ce dont je parle. Mais non, ça n'existe pas en fait. C'est une culture clanique, clanesque. C'est rare. C'est les clans, c'est les. On revient à une certaine forme de bestialité, et ça, c'est tout un jeu, on voit de qui ça vient. Donc, et même les clans antiracistes, etc., créent des clans. Donc, en fait, c'est vraiment, on est roulé dans la farine par l'ennemi, puisqu'on, sous prétexte d'une doctrine très ouverte, en fait, on crée des clans parce qu'on s'oppose à ceux qui ne seraient pas ouverts. Une fois dans l'église, ça m'est arrivé aussi, on prenait un bus pour aller au GMJ et il y avait les tradis. Il y avait 3 filles dans le groupe qui ne supportaient pas les tradis. Au bout de la première étape, elles ont changé de bus. On a dit, mais eux, ils sont ouverts, ils vous ont accepté. Ils sont différents, bon, mais ils vous ont accepté. Mais vous n'acceptez même pas dans leur bus alors qu'on va ensemble prier à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est en 89, hein. Vous n'étiez pas nés, les enfants. Moi, si.
Monseigneur, on a compris que la source du racisme est le péché, en fait, pour celui du jugement particulièrement. Aujourd'hui, comment l'Église reconnaît-elle les blessures causées par ce péché que sont les racismes, y compris en son sein et dans son histoire aussi? Et puis, comment accompagner finalement toutes ces personnes qui, de par leur histoire, de par leur couleur de peau, de par leur culture, se sont senties blessées par ces racismes?
Alors, il y a deux questions, je vais essayer de répondre. La première, c'est que, alors je vais un peu un petit cocorico, l'Église est certainement la seule à le faire. Lisez le discours de Jean-Paul II à Gorée pour l'an 2000, mais aussi, il y a d'autres discours de l'Église. Il ne faut pas oublier que l'Église aussi, par exemple pour l'esclavage, tous les textes des papes ont toujours, toute l'histoire, condamné l'esclavage. J'ai fait une étude sur l'anti-esclavagisme catholique, je demandais à des historiens de la faire, mais moi, en premier, j'étais absolument subjugué par toutes les positions, notamment du magistère de l'Église, mais pas que, l'investissement de chrétiens contre, par exemple, Bartholomé de Las Casas pour l'esclavage des Indiens, même si on l'a accusé après d'avoir favorisé l'esclavage des Noirs, c'était pas vrai. C'est faux historiquement. Mais enfin, on l'a accusé pour pouvoir. C'était de bonne guerre, je veux dire. Mais il n'y a pas eu que ça. Enfin, il y a eu des choses tellement belles aussi, tellement de saints, qui se sont tellement de réalités dans l'Église. Il y a eu des évêques africains dès le 15e siècle. Le premier, enfin, des choses. Et ça n'a jamais posé de problème dans l'Église catholique, les questions de racisme, parce que je vous dis, dès le début de l'Église, c'est la première question qui a dû être tranchée. Parce que le peuple juif, compte tenu de son histoire et de sa constitution, est toujours très, comment dirais-je, très, très fervent de son identité. Mais entre être fier de son identité et rejeter les autres, attention, faut pas franchir le pas, et c'est toujours une tentation humaine. Donc dans l'Église, il y a eu du racisme, il y a tout ce qu'il y a de mauvais dans l'humanité à traverser les membres de l'Église. Ça, nous ne le revendiquons pas fièrement. En même temps, oui, parce que c'est justement à travers cette misère que Dieu a créé une communauté de grâce, a pu apporter la grâce. Il y avait une deuxième partie à ta question, il faut que tu me la rappelles, parce que là, j'ai fait la première partie.
Mais comment on peut accompagner, enfin, Comment on peut accompagner les personnes qui ont été blessées
oui.
par ce type de racisme?
Voilà. Alors, les personnes qui ont du racisme. Alors, d'abord, il ne faut pas qu'elles tombent dans l'autre racisme qui considère de s'enfermer là-dedans. Parce que du coup, à un moment donné, on n'arrive plus à voir l'ouverture d'esprit des autres. Parce qu'on est enfermé, parce qu'on a intégré le racisme en soi. Et la vraie liberté, les chaînes qui doivent tomber, alors je parle surtout pour nous Antillais, c'est à un moment donné de choisir de ne plus être sensible à cela. Parce que sinon on risque d'être tout le temps sensible. Et à voir partout. Si je vous dis, par exemple, on faisait un jeu quand j'étais petit, on disait deux chevaux vertes. Vous étiez celui-là. Et toute la journée, vous voyez des deux chevaux vertes. Parce que, ah ben tiens, voici une, voici une. On dit, mais il y en a beaucoup aujourd'hui. Je me rappelle, la première fois que j'avais acheté une voiture, c'est une Fiat Panda. Donc, du coup, j'avais regardé sur le catalogue, j'avais oublié à quoi ça ressemblait. Je ne sais plus, il n'y a pas d'Internet à l'époque. Hein. Ah, je veux. Et toute la journée, je dis, mais il y en a plein en Martinique de Fiat Panda. Parce qu'évidemment, moi, je les voyais tout le temps, mais je... Voilà. Or, il y a quelque chose de cela aussi dans le racisme. À un bout d'un moment, on ne voit que ça. Et c'est valable pour d'autres phénomènes. Donc on nous les met dans la tête et on ne voit que ça. Ça peut dire qu'ils n'existent pas non plus, attention, qu'il ne faut pas les voir, qu'il faut passer à côté. Mais c'est d'abord une attitude de soi de ne pas être raciste et de ne pas être sensible au racisme, de ne pas être racisé soi-même. De dire non, parce que ça ne correspond pas à la dignité de l'humanité. Quand je vois quelqu'un, je ne vois pas d'abord un noir, un blanc, je vois un être humain, un frère, une sœur. Et là, cette attitude profonde, mais ça c'est la grâce qui peut le donner, et puis un petit peu aussi la bonne éducation, la volonté, si on n'est pas prisonnier de quelque, comment on appelle ça, de quelque idéologie qui fait qu'on voit tout le temps l'autre comme quelqu'un qui est un supposé raciste, puisque effectivement, tu le disais tout à l'heure, tout homme est marqué par cela, parce que en nous, c'est pas forcément au départ quelque chose de négatif, c'est juste une réaction, je dirais, bestiale, enfin, primaire, j'ai dit bestiale, primaire. Réaction primaire. Mais l'être humain est assez fort pour aller au-delà de ses réactions primaires. C'est parce que, je sais pas, je vois une jolie fille passer, que je vais lui sauter dessus. Mon chien nous gasse, s'il y a une femelle qui passe, il est en chaleur, il saute, hein, il réfléchit pas. Hein, même si je suis là, je dois le retenir. Bon, ben, l'être humain, non. L'être humain résiste à ses peurs, à ta vie, etc. Bon, donc ça, c'est sûr. Mais quand on a été marqué, quand on a été blessé, effectivement, il y a un travail à faire. C'est le travail de la grâce. C'est le travail de l'amour, c'est le travail de la civilisation de l'amour. Et je reviens à l'idée du témoignage et de la praxis. C'est-à-dire que dans l'Église, nous pratiquons fondamentalement, et on est tellement blessé lorsqu'il y a de l'ostracisme, lorsqu'il y a des discriminations entre nous. Tout homme est blessé, mais particulièrement. Donc dans l'Église, le fait d'être en communauté, la communauté, nous permet de vivre profondément, de vaincre et de guérir, voilà le mot que je cherchais, d'avoir cette guérison. Parce qu'on a tous besoin d'une guérison par rapport à cela. Le péché, elle nous a vraiment marqué. Merci à tous. Merci à la communauté du Chemin Neuf qui est venue avec nous aujourd'hui pour poser des questions et pour participer à la catéchèse. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.